On vient de créer un comedy club de gauchois à Toulouse.
Ça s'appelle le Gaucho Comedy Club. C'est un super jeu de mots.
Ici, il n'y a pas de blague oppressive.
On donne la priorité aux personnes racisées, queer et aux femmes.
On veut que ce soit accessible financièrement, c'est-à-dire que la plupart de nos événements sont à prix libre.
Ici, on a le droit d'exprimer nos désaccords.
On veut aussi que ce soit un espace de courage. On veut essayer de faire mieux ensemble.
On joue plusieurs fois par mois dans des endroits super chouettes à Toulouse et peut-être même ailleurs.
Vous regardez la bio, il y a tout, avec Démosphère Toulouse, l'agenda militant.
Et le gaucho, c'est surtout ça.
Ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emporté sans retour. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour.
Eh bien, salutations, vous êtes bien à l'écoute de Canal Sud sur les 92.2, c'est la voix du mag qui commence, ou plutôt recommence, puisque c'est un peu mon retour sur les ondes, j'ai plus d'excuses piscine. Voilà, d'ailleurs, désolé, c'est tombé sur vous. Alors aujourd'hui, une émission consacrée au stand-up comme laboratoire d'expérimentation où l'humour sert à fissurer les évidences et à reprendre le contrôle sur la narration, sans jamais s'appuyer sur des blagues oppressives. Pour nous en parler, je reçois Fanny et Eos. Bonjour.
Bonjour.
Alors bienvenue au mag.
Tutti antifascisti,
s'il vous plaît. Siamo tutti antifascisti. Siamo tutti antifascisti. Voilà, c'est vrai que vous commencez vos shows par un siamo tutti antifascisti. Alors je voulais savoir pourquoi ce rituel, savoir aussi si ça posait un cadre politique et émotionnel dès le début.
Moi je pense qu'il y a deux raisons à ça. C'est que déjà dans le stand-up, on a besoin que les gens ils soient énergisés au début et que souvent on les fait crier, etc. Et nous, on voulait qu'il y ait un sens dans ce qu'on faisait. Donc on a trouvé que ça c'était cool pour les mettre dans l'ambiance et pour au moins poser le cadre directement pour que les gens sachent où ils sont, les blagues qu'ils vont entendre.
Il y a un effet manif avant l'heure et ça fait du bien.
Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement, si vous aviez à définir votre humour en un mot, lequel vous viendrait à l'esprit là, spontanément?
Moi c'est Fanny, Fanny Ferry dans la vie et Fanny Ferrir sur les réseaux, parce que j'adore les jeux de mots. Et j'aimerais bien quand même me situer un petit peu sociologiquement parlant pour le reste de l'émission. Donc moi je suis une femme cisgenre, blanche, voilà, donc j'ai beaucoup de privilèges, j'ai un petit handicap qui est le TDAH, mais c'est voilà. Donc voilà où je me situe. Et dans la vie je fais du stand-up, c'est mon métier, même si je gagne pas ma vie encore avec ça. Et je fais des vidéos et j'essaie de parler de féminisme, d'antiracisme, de toutes les luttes systémiques et puis d'écologie aussi. Si je devais définir mon humour en un mot, c'est compliqué, mais je dirais politique, parce que j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on me définit dans le stand-up mainstream.
Et de mon côté, c'est Eos, du coup. Je commence tout juste le stand-up, je fais seulement 3 scènes, grâce au gaucho. Enfin, 2 avec le gaucho et 1 en scène ouverte queer. Donc je me considère aussi comme une personne queer, même si j'aime pas trop le côté identitaire de queer et je le vois au-delà d'une identité. Je suis une personne blanche. Mais sinon, dans l'idée, dans ma vie, je fais beaucoup de choses qui sont pas payées. Associatif, collectif, tout ça.
C'est vrai qu'on s'est déjà croisé.
Ouais, le Food Not Bon. Oh ouais.
Comment est né le gaucho et quelle envie vous a poussé à créer un espace de stand-up?
Faut que tout ça soit une scène de comédie club pour demain. Bah nickel. Alors 2, 4, 6, 8, 26, 27, 28, 29, 30. Il nous manque 9 chaises. Plus que 9 chaises. On va faire rentrer tout le monde, hein. Petit à petit.
Au tout départ, on s'est croisés en scène ouverte, queer, du coup, à l'Impasse et à Lier. C'était la première fois que j'essayais de faire du stand-up. C'était un peu un challenge pour moi. Et Fanny est venue me voir en me disant « Mais c'est super ce que t'as fait ».
Ça, moi, j'avais adoré son premier passage. Il m'a dit que c'était son premier passage et il avait vraiment occupé l'espace. Enfin, ça avait été super génial, quoi. Et donc, je suis allée le voir en lui disant, mais il faut que tu le fasses, quoi. Comme moi, je faisais déjà depuis un an. J'avais un peu plus les connaissances.
Ouais. Le regard.
Non, pas tant de compétences, mais de connaissances du milieu du stand-up de Toulouse, de savoir où est-ce qu'il pouvait aller, que ce soit plus safe, etc. Donc, je suis allée le voir en lui disant, mais il faut que tu le fasses, quoi.
Pendant l'été, tu me dis, bon, en vrai, je crois que j'ai envie de monter un comedy club engagé. Mais je ne me sens pas seule. Est-ce que tu veux bien le faire avec moi? Et je dis, allez.
À Toulouse, on n'a pas beaucoup de comédie clubs engagés. Il y a des comédie clubs plutôt de gauche, mais pas des comédie clubs engagés. Il y a beaucoup plus à Paris, parce que c'est une grande ville, donc il y a beaucoup plus de comédie clubs queer ou engagés politiquement. Et moi, ça me manquait un peu. Et puis à Toulouse, c'est difficile de jouer. On n'a pas beaucoup de scènes pour pouvoir jouer. C'était cool de pouvoir monter un comédie club engagé, ce qui manquait un peu.
D'ailleurs, vous l'avez nommé. Je sais que vous ne vous réclamez pas forcément de cette catégorie, mais est-ce qu'on peut parler d'un humour queer? Comme on peut parler d'un humour afro-américain, par exemple. Est-ce que pour vous, il y a une façon queer de faire rire?
Si on ne le perçoit pas comme un côté identitaire, pourquoi pas? Je dirais que c'est un humour non oppressif qui prend en compte au maximum de systèmes oppressifs pour mieux les dénoncer, mais pas que sur l'alphabet LGBTQIA+, mais sur vraiment tous les systèmes d'oppression. Nous, on est deux personnes blanches qui organisent, donc c'est aussi une de nos réflexions, c'est on prioritise les artistes racisés, puis les personnes queer et les femmes dans notre line-up. Donc c'est aussi pour amener d'autres points de vue, points de sujet. Du coup, je sais pas si c'est de l'humour queer, mais c'est de l'humour non oppressif, l'humour qu'on souhaite engager et critiquant le système et le système de domination.
Coucou, c'est moi, le Red Flag. Je m'adresse à toi, qui est attiré par la gente masculine. Alors comme ça, on est exigeant sur ce qu'on bouffe, mais par contre, pour ce qui est des mecs, on prend tout ce qui se passe, bat les couilles des exigences. Eh bien écoute, je suis ici pour t'ouvrir les yeux et pour t'aider à mieux me reconnaître. C'est bien un poster d'Éric Zemmour.
Red flag!
Sauf s'il est dans les chiottes, là ça passe.
S'il met des chaussures sans les chaussettes.
Red flag!
À part si c'est des tongs, bien entendu.
Red flag!
S'il arrive en date en trottier électrique. Avec un sac basic fit.
Red flag!
S'il met du brut délibérément.
Red flag!
S'il a un animal de compagnie mais qu'il le caresse avec ses pieds.
Red flag!
Il commence toutes ses phrases par je te promets que.
Red flag!
Il poste sur LinkedIn.
Red flag!
Se prend en photo avec un poisson dans les mains après une sortie de pêche. Sache que c'est aussi le genre de personne à mesurer sa vie.
Et puis les humoristes qu'on programme et qui doivent venir sur scène, on leur demande pas de faire un humour queer ou un humour engagé forcément. On leur demande plusieurs choses, c'est de pas de faire de blagues oppressives. Et nous, on vérifie que le line-up soit un petit peu diversifié. Pour pas que ce soit que des hommes cis blancs. Et voilà, que ça soit diversifié, qu'il y ait pas que des personnes blanches, qu'il y ait pas que des personnes cis.
D'ailleurs, la scène qui a été faite avant et les quatre prochaines scènes qui sont programmées, il n'y a aucun homme cis blanc en fait.
Nathan Louise, et on fait un petit line-up, rappel de charte. Et encouragement.
C'est bien les encouragements après la rappel de la charte.
Du coup, déjà, merci beaucoup d'être venu, c'est trop bien. Et peut-être, donc line-up, donc dans l'ordre.
Viens au concert entre en transe, oui c'est fêlé. Tu pourras apprendre à slay comme Ebi Trans, Queen et PD. Tu veux pas comprendre nos codes, sache que c'est réciproque, bouffon. Enlève quelques barrières, bientôt t'apprécies comme tout le monde. Et tu dance, dance, dance. Et tu fog, fog, fog. Et tu twerk, twerk, twerk. Et tu bounce, bounce, bounce. Oh shit. Coupe si t'es pas ma sauchesse. Car je compte pas arrêter ma propagande de gauchiste. Allez.
Votre humour, si on devait arriver à le définir, quels en seraient ses ressorts, ses codes, peut-être ses ruptures?
Je suis en train de me dire, mince, est-ce que j'ai dit en un mot mon humour? Parce qu'en tout cas, c'est un humour sans tabou. Il y a deux mots, mais c'était plutôt ça en fait.
Si tu le dis vite, ça passe.
Ouais,
c'est
pas mal. Sans tabou.
Sans tabou.
Sans tabou. Et plutôt traiter des sujets dits universels, mais en montrant très bien que ça touche pas les gens de la même manière. Casser cet universalisme de gauche, casser cette gauche molle.
C'est vous aussi la source d'inspiration première.
Bah moi personnellement, mes obsessions c'est faire des choses, on va dire entre guillemets utiles. Quand je dis des choses, quand je fais rire les gens, etc. L'utilité, ça peut simplement faire décompresser les gens. Hein. Je peux réussir à dénoncer en faisant rire. Je veux m'attaquer à quatre tabous. Donc le premier c'était un peu la mort, la maladie, etc. Le harcèlement aussi, même si c'est pas tellement tabou. Ce soir sera le suicide et prochainement.
Tu le vends bien, hein,
le coup chaud.
Venez ce soir, c'est le suicide.
Suicide.
Tranquille. Tranquille, tranquille.
La base, quoi.
Voilà.
La base d'une soirée réussie, quoi.
Mais je pense que je ferai encore mieux. Je ferai encore mieux avec l'inceste et tout ce qui est en lien avec l'exclusion.
Alors, pour faire un bon stand-up, il faut choisir un bon thème. Quoi faire? J'ai longtemps hésité avec le suicide et l'inceste. C'est un thème super fédérateur. Je me suis dit quand même, je vais aller tranquille, je vais faire la mort ce soir. La mort, ça parle à tout le monde. Normalement, ça arrive à tout le monde. Rigole pas trop.
Ça qui est bien de monter notre propre Gaucho Comedy Club, c'est que on sait qu'on n'a pas de restrictions à devoir s'arrêter à un niveau d'engagement, etc. On a aussi une bonne partie du public avec nous, ça aide à que les gens rient avec nous.
Venez apprendre du verbe la conjugaison, ouais, c'est ça, avec le Gaucho.
Riser, on rise beaucoup, c'est vrai, c'est le principal, quoi. Et est-ce que vous assumeriez ou pas l'idée d'un humour communautaire ?
Je sais pas si on assume ça, je sais même pas si c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on fait au local du Chat Noir, et ça nous fait trop plaisir, ça nous fait trop du bien, etc. Mais c'est pas forcément un objectif futur.
Moi, je pense qu'il y a deux axes dans notre combat. Il y a un axe de prendre soin de la communauté. Donc je pense qu'au local du Chat Noir, c'est un peu ce qu'on va continuer et perpétrer. Ça veut dire faire des blagues, private joke entre nous, pour nous faire du bien, pour rire des problèmes et pour parler de tout ça. Mais je pense qu'on aimerait aussi développer un autre axe qu'on est en train de faire un peu plus en janvier, etc. C'est d'aller dans des bars un peu plus mainstream pour pouvoir parler de ces sujets avec une gauche un peu moins politisée, pour justement avoir un impact positif, se faire se poser des questions, etc. Et donc je pense qu'il y a ces deux phases qui existent. Il faut qu'on fasse vivre en même temps, quoi.
Dis plein ton cul, mais c'est toutes des menteuses. Des rappeurs sexistes choqués par des rappeuses. Est-ce que moi ça passera si je dis que je t'apprécie qu'à moitié nu en train de passer la tondeuse? T'as peur de moi? Comme Marine des migrants. J'oule le mur parce que tu pèses tes aliments. Ta table de nuit c'est un carton de déménagement depuis 10 ans. Je m'excuserai pas d'être bruyante. Je m'excuserai pas d'être brillante. Je préférerais qu'ils fassent semblant de pas nous voir comme la calvitie. Ils font semblant de pas nous croire comme féminicide. Ça devient gravissime. Je mettrai pas les formes, je les porte. Juste en dessous de la taille de mon short. Faudrait que je me taise et je supporte. T'es trop silencieuses en sont mortes. Est-ce que t'as déjà eu peur pour ta vie? Je montrerai l'écrou face au fusil. Je suis la louve, la mère, la patronne, la baronne, la chère. Le tapis rouge, la reine, l'impératrice, la doyenne. Je suis la louve, la mère, la patronne, la baronne, la chère. Je suis la lionne, la reine, la fondatrice, le calice. Mes rappeurs préférés sont tous accusés de viol. Du coup de qui je m'inspire, y'a de la cruauté dès la cour de l'école. Là où c'est censé nous instruire. Déjà trop vieille pour DiCaprio, mais j'ai pas la trentaine. Mais c'est quand même moi le problème. Soit la taronne, soit pucelle. Petite j'avais peur de la pénombre qu'on pointait le soir. J'imaginais des monstres qui sortaient du placard. Maintenant j'ai peur du noir quand je rentre un peu tard. Mais c'est pas quand je croise une femme que je change de trottoir. Ah tu peux plus nous draguer? Dommage. Elles font chier les chiennes à rester sur leur garde. Et pourquoi tu crois qu'on mord et qu'on fait carnage? Et pourtant c'est pas nous les sauvages. Je mettrai pas les formes, je les porte. Juste en dessous de la taille de mon short. Faudrait que je me taise et je supporte. De trop silencieuses en sont mortes. Est-ce que t'as déjà eu peur pour ta vie? Je montrerai l'écrou face au fusil. Je suis la louve, la mère, la patronne, la baronne, la chère. Le tapis rouge, la reine, l'impératrice, la doyenne. Je suis la louve, la mère, la patronne, la baronne, la chère. Je suis la lionne, la reine, la fondatrice, le calice, la chaîne. Nous sommes les louves, les mères, les patronnes, les baronnes, la chère. Le tapis rouge, les reines, les impératrices, les doyennes. Nous sommes les louves, les mères, les patronnes, les baronnes, la chère. Nous sommes les lionnes, les reines, les fondatrices, le calice, les chiennes.
Premièrement, votre vision de l'humour, donc c'est du care, mais c'est purement politique. À quel moment l'humour devient politique, même quand on ne cherche pas à faire du politique?
Moi, je pense que l'humour est politique, point. Si on n'en est pas conscient, du coup, on envoie juste un message qu'on ne maîtrise pas. Mais je pense que dès qu'on monte sur scène et qu'on prend la parole devant un groupe de personnes, on a un message politique. Voilà, donc nous, c'est juste assumé et voulu, mais je pense que tout humour est politique, surtout les humours où on remplit des salles gigantesques et qu'on passe à la télé, quoi.
Et quand l'humour est oppressif, il est politique, mais pas d'une bonne manière, mais il envoie aussi des messages politiques qui font le terreau à l'extrême droite, etc. Et du coup, on va dire qu'il est politique du bord gauche, côté parking de la gauche, quoi.
Le bas-fond de la gauche.
Souterrain.
Souterrain, bien sûr, la base. Non, parce qu'évidemment, quand on parle de politique, c'est l'essence politique. C'est pas le côté parti politique qui n'a aucun intérêt de toute façon. Et c'est vrai qu'on rit de choses violentes sans les minimiser. C'est un exercice complexe. Comment est-ce qu'on peut rire en fait des dominations sans rire des dominés? Comment vous arrivez à vous situer sur cette ligne de crête qui peut être très ténue parfois?
Je trouve qu'on a un peu de l'aide avec l'amour, l'humour. L'humour absurde. Moi, je fais pas mal d'humour noir, etc. Et mais à des moments, en fait, je prends la voix du dominant et en fait, je me moque de lui, quoi. En fait, ça aide d'avoir un public averti qui va bien comprendre le message. C'est aussi un problème dans l'humour. C'est que des fois, je pense qu'il y a des gens qui disent des choses, ils voudraient passer l'idée inverse. Mais sauf que le côté absurde n'a pas été assez montré. Et du coup, vont être taxés de quelque chose qu'ils pensaient dénoncer. À chaque blague que je réfléchis à ça, je crois que c'est vraiment dans le mood. Et je les fais tester et je vois comment ça réagit, si le message est transmis de la manière que j'aimerais qu'il soit transmis.
Il faut qu'on se questionne un peu tout le temps. Moi, je sais que sur notre première, j'ai fait des blagues qui voulaient dénoncer des choses et on m'a dit qu'il y avait une blague qui avait été qui pourrait être mal comprise. Et moi, c'est pas OK avec ça. Si la blague peut être mal comprise, on l'enlève. Donc je pense que ça, c'est un questionnement régulier sur est-ce que c'est bien l'oppresseur dont on se moque et est-ce que surtout, c'est clair pour tout le monde. Si tout le monde a les références pour comprendre que c'est une blague, avec le ton qu'on emploie, avec le vocabulaire qu'on emploie. Il y a plein de choses qui peuvent faire que c'est clair, mais il faut que ça le soit.
Le fait d'être dans une réflexion très aboutie, voire d'auto-analyse, parfois, est-ce que ça ne va pas dénaturer la blague un peu spontanée, quoi?
En fait, il y a des blagues qui vont être très drôles, mais qui vont avoir un effet délétère sur la société. Et je pense que celles-là, elles ne valent pas le coup d'être faites, même si le ressort comique peut être génial. La blague ne mérite pas d'être dite sur scène parce qu'elle a trop d'impact négatif. On a des discussions avec d'autres humoristes qui pensent que c'est se brimer que de faire ça, mais je pense que ça dépend de ce qu'on veut faire. Pour le monde. Donc, moi, j'ai pas envie d'avoir un effet négatif sur qui que ce soit. Donc, si ma blague est un peu moins drôle, mais qu'elle va faire de mal à personne et surtout pas perpétrer des oppressions systémiques, je pense que c'est une meilleure idée.
Oui, et moi, ça me fait un peu penser à nos questionnements sur l'autodénigrement. C'est que c'est pas parce qu'on est une personne concernée qu'on peut pas faire des blagues de merde sur notre propre domination qu'on subit. Comme on voit beaucoup de blagues grossophobes faites par des personnes grosses, etc. Des blagues racistes par des personnes racisées. Et c'est vrai que ça fait mal au cœur. Essayer de faire rire sur les ressorts racistes des personnes, en sachant que ça va faire rire. Malheureusement, comme tu dis, il y a des blagues qui font le mal, entre guillemets, quoi.
Mais j'ai l'impression que ça va avec un regard sur le monde aussi. Chaque interaction nécessite, je pense en tout cas, de réfléchir aux mots qu'on utilise.
C'est ça, c'est un côté un petit peu égoïste et surtout des privilégiés de parler en se disant bah, c'est à la personne de comprendre ce que j'ai à dire, etc. Et si ça l'a blessé, c'est son problème. C'est pas vrai, on faut faire attention à ce qu'on dit, ça dans la vie de tous les jours aussi. Et donc c'est pareil avec un micro, d'autant plus avec un micro sur scène devant des gens.
Et tant mieux si l'humour est enfin concerné. On parle souvent du « c'était mieux avant ». Mais heureusement que ce vieux monde disparaît progressivement.
Je trouve que l'humour, c'est criant en plus, parce que quand on regarde des spectacles d'avant, c'est catastrophique.
C'est flippant, quoi.
Ouais.
Et c'est à l'image de la société qui pouvait générer ce type d'humour dans l'indifférence totale. Enfin, là, vous abordez un peu le racisme intégré, des choses comme ça, la domination intégrée. Donc tu rigoles toi-même, évidemment, parce que c'est l'un des seuls ressorts qu'on te laisse.
J'avais un livre de Coluche chez moi. C'est vrai que quand j'ai eu les blagues, c'est pas écrit, c'est pas la même chose. Des fois, que c'est que des extraits, donc des fois, ça peut être mal interprété aussi. Ouf, ça fait mal, quoi. Certaines blagues, et pourtant, ça faisait rire.
Drôle. Et en plus, il était un peu militant.
Ouais, il est perçu de toute façon comme un humour un peu progressiste, un peu anti-système, tout ça, ou une espèce de truc fourre-tout qui te permet quand même de dire deux, trois dingueries. Enfin, très questionnant, sincèrement. Donc oui, il faut investir l'humour, évidemment. C'est hyper important de reprendre le contrôle des narrations, en fait, de toutes les narrations. Et d'ailleurs, je vais vous faire écouter un son, là, de Jamil Le Schlag, qui parle aussi, lui, de sa vision d'un certain type d'humour qui qualifie d'humour arabe, et j'aimerais bien en faire réagir juste après.
De toute façon, les Arabes
sont drôles.
Sur scène, waouh, le niveau est exceptionnel. Tu prends un rebeu n'importe lequel qui vient de commencer, Ouais. Et il arrive sur scène, je lui dis juste, sois toi-même, raconte-nous truc, une anecdote.
Sparrow.
Wallah, il a.
Non, Sparrow. Ouais.
Ahmed Sparrow. Mais tu peux, la liste est tellement longue. Ouais. Prends toute la généalogie des comiques arabes, etc. Ouais. D'où ça vient? Est-ce que ça vient de l'esprit de quartier? On en discutait l'autre jour. L'esprit de quartier, de se vanner, etc.
Dans le quartier, pourquoi les Arabes sont
si tu sais pas vanner, t'es mort. Donc tu apprends très tôt à. Dans l'histoire, c'était comme ça au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle. Dans le film Ridicule, par exemple, si vous connaissez. Mais transposé dans d'autres classes sociales, c'est un petit peu la même chose, quoi. Tu sais pas vanner, si tu sais pas, etc., t'es mort. Donc peut-être que ça vient de là.
Il y a peut-être un double truc, en effet, le truc de quartier, et qui est de la joute verbale, on va dire.
Ouais.
Et je pense qu'il y a un truc aussi culturel chez
culturel arabe.
Culturel arabe.
Société orale.
Compteur, quoi.
Ouais.
Compteur hors pair.
Ah là là là. La tradition orale, quoi.
Et tu prends ton nom, ta tante, n'importe qui.
De ouf.
Raconte-moi comment ça s'est passé, la circoncision de lui. Ouais. Bon, bah, c'est fini.
Tutti antifascisti.